A, dobrze, tutaj ze względów porządkowych najpierw punkt 9. To jest petycja 37/2005. Bardzo proszę, jest autor petycji pan Laurence, pan Jean-Marie Salomon. Bardzo proszę, zabranie głosu.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis ce soir le porte-parole des gens de Mardiéval, puisque c'est le projet que nous refusons à Mardier, dans le Loiret, qui est évoqué ici. Mais je relais aussi les associations de Sully-sur-Loire et de Baule, avec qui nous sommes alliés contre les trois menaces similaires. Et la cause des pétitionnaires de Donnery, de leur part comme de la mienne, merci aux 603 députés qui ont voté le rapport du député Hammerstein, et à vous tous pour cette réunion. Depuis celle du 11 décembre 2007, le Conseil général du Loiret a choisi d'ignorer la plupart de vos recommandations et surtout de ne rien changer à ses plans concernant Mardier. Il s'est au contraire engagé dans une coûteuse fuite en avant dans la prétention de contourner ou de surmonter ce nouvel obstacle qui venait s'ajouter à beaucoup d'autres. Pourtant, dans cette période, tout a convergé pour mettre en lumière l'inanité et le caractère inacceptable d'un projet rejeté par un nombre croissant de citoyens. Un cinglant désaveu électoral pour le président Doliger, le Grenelle de l'environnement et la loi Grenelle 1, la progression rapide de la conscience écologique, l'envolée des prix du pétrole qui a accentué une réduction sensible des trafics. Cela au plan général. Sur le terrain, notre travail n'a pas faibli, d'autant qu'il s'accorde encore mieux qu'avant aux actions des municipalités renouvelées et qu'il a trouvé un nouveau relais politique actif au sein de l'Assemblée départementale en la personne de Thierry Soler qui est ici présent. Ainsi, Mardiéval a constitué une alliance avec les défenseurs de Sully-sur-Loire et de Baule, ces trois communes fières de leur loi reconnue patrimoine mondial et riches d'un environnement classé Natura 2000, sont aussi, comme vous le savez, sous la menace des déviations routières du Conseil général. Trois raisons pour consolider leurs forces et lutter conjointement jusqu'à la sauvegarde définitive de leur territoire. Première initiative, étayer la saisine des autorités de l'UNESCO en charge du patrimoine mondial par l'envoi d'un dossier illustré et argumenté, qui met notamment en lumière le non-respect par les autorités françaises des obligations du protocole qui les engage. Notre intention est aussi de lier la défense des trois sites devant votre commission. Par ailleurs, Mardiéval a analysé les études enfin obtenues qui avaient fondé le vote sur le choix de tracé en 2005. Sans surprise, les justifications de ce projet conçu au siècle dernier se sont révélées inconsistantes, incohérentes, non probantes, voire fallacieuses. Mieux, elle prouve encore que ce fameux projet de grand contournement routier d'Orléans reste le seul motif crédible de la déviation de Mardier. Cela nous renforce dans notre conviction que ce projet ne solutionne aucun des problèmes qu'il prétend résoudre et n'a pas d'utilité publique avérée. Il y a un an, à Orléans, la médiatisation du rapport de votre mission d'enquête a mis sur la défensive certains responsables et élus du Conseil général qui ont répliqué par une communication mensongère, au moins par omission. Ils se sont efforcés de minimiser les conclusions du rapport qui faisait obstacle au projet, notamment en dénigrant ouvertement et parfois très désagréablement la commission des pétitions et les membres de la délégation. Poursuivant l'élaboration du dossier de déclaration d'utilité publique, l'exécutif du département a ensuite engagé de nouvelles études et prestations de services coûteuses. Elles pourraient dépasser 1 million d'euros. Une brillante équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage vient de justifier la volonté du président de s'exonérer du Code des marchés publics par le biais d'un partenariat public-privé qui livrerait le projet à un grand groupe de travaux publics. Paradoxalement, le rapport d'évaluation de cet assistant ne peut éviter de mettre en lumière les complexités et les risques volontairement escamotés jusqu'ici, qui servent maintenant d'argument à l'abandon du projet au secteur privé. Il confirme aussi la sous-estimation flagrante de l'avant-projet, dont le coût apparaîtra bientôt comme tout à fait déraisonnable dans la situation économique actuelle. L'enquête d'utilité publique serait repoussée au-delà du choix et de l'engagement avec un partenaire privé. Voilà décrite le plus brièvement possible la tentative de fuite en avant évoquée précédemment et la situation d'enlisement à laquelle le projet ne peut échapper. Subsiste un fait majeur, preuve incontestable du mépris témoigné ici à la réglementation Natura 2000. La négation pure et simple, lors de l'adoption de l'avant-projet par l'Assemblée départementale, des conclusions de l'étude d'incidence sur l'environnement réalisée en 2005 par les naturalistes orléanais. Le président Doligé ne s'est jamais expliqué à ce sujet. Comment l'étude d'impact dans une éventuelle enquête d'utilité publique pourrait-elle escamoter ce fait établi ? Il serait essentiel d'exiger du maître d'ouvrage qu'il respecte enfin les conclusions de cette étude imposée par Natura 2000. Ce qui reviendrait à lui imposer de revoir ses plans concernant le franchissement envisagé à Mardier, comme vous l'aviez si bien formulé il y a un an en recommandation finale de votre rapport. Vous ne l'ignorez pas, nous sommes David contre Goliath. Les ressources humaines, intellectuelles, matérielles, financières de nos associations, même rassemblées dans l'Alliance, apparaissent comme dérisoires et précaires face aux considérables moyens politiques, techniques, humains et financiers de l'institution que nous défions. Malgré cela, nous tenons bon depuis plus de 12 longues années. Mais cela prend trop de temps à ceux qui agissent. Ils préféreraient le passé, le cœur serein, au bord du grand fleuve sauvage qu'ils aiment avec passion, ou dans ces bois qui leur rappellent la belle leçon des aborigènes, à savoir que la nature ne leur appartient pas, mais que ce sont eux qui appartiennent à la nature. Ils y rencontreraient ces oiseaux exceptionnels que la Loire héberge ou nourrit, comme les balbuzards pêcheurs, les sternes, les martins pêcheurs, voire une cigogne noire ou un héron pourpré. 100 espèces différentes sont encore présentes, mais pour combien de temps ? Ils observeraient la vie de cette faune variée, des batraciens mammifères, des rapaces aux odonates qui se confrontent autour de l'étang dans les bois. Ils pourraient même se mettre à l'affût de jour pour guetter ce balbuzard pêcheur qui, sans doute tenté par une nidification à proximité du fleuve, a fréquenté longuement une aire perchée dans les bois de Mardier au cours de cet été 2008, ou de nuit pour surprendre le castor. Vous avez bien voulu relayer notre cause, c'est déterminant pour la suite et nous vous en sommes profondément reconnaissants, mais nos efforts conjoints ne doivent plus maintenant tarder à aboutir, il faut que cette mauvaise aventure prenne fin au plus tôt, sans plus de dégâts et sans plus de gaspillage. Merci de votre attention.
Dobrze. Proszę Państwa, ja nie zwróciłem uwagi na to, zapowiadając rozpatrywanie tych punktów, że dla pewnej ekonomiki czasu my będziemy rozpatrywać ten punkt 9 razem jak gdyby z punktem 8, dlatego że to dotyczy spraw zupełnie bliźniaczych. Także teraz poproszę, żeby zabrał głos autor petycji z punktu 8, petycja 1282/2007, pan Rémi Sallé. Bardzo proszę, pan Rémi Sallé.
Bonjour, je vous remercie de nous recevoir. Donc je vais faire un bref historique de ce qui nous amène ici. Il était toujours prévu à Orléans de créer un pont à l'est d'Orléans. Donc dans un premier temps, il y avait un pont au centre d'Orléans dont les piles ont été doublées, donc il était prévu de doubler ce pont, ce qui n'a jamais été fait. Et puis après, au fur et à mesure des années, ce pont prévu en plein centre-ville s'est éloigné hein, pour arriver à des lieux dits Cabinet Vert, après au lieu dit Le Narval, qui est à plusieurs kilomètres du centre d'Orléans. Et on a vu apparaître sur la commune de Chessy, qui se trouve quand même à quelques kilomètres d'Orléans, un nouveau projet de pont. par un vote du conseil d'agglomération du 21 juin 2007, en fait, il n'est resté plus que deux fuseaux. Le fuseau donc dit Narval à Saint-Jean-de-Bret donc et le fuseau Chessy qui sont très proches l'un de l'autre et qui doivent faire l'objet d'un vote définitif du SCOT à fin décembre 2008 donc très prochainement. Alors cependant ces deux sites posent pour nous un gros problème que l'on va vous exposer maintenant.
Oui, alors en fait, je vais être très bref. Je veux juste montrer à la Commission l'importance de cette zone. Alors bien évidemment, nous sommes, comme vous le savez tous, la Loire est en zone et dans le réseau Natura 2000. Donc l'ensemble du cours de la Loire dans le département du Loiret. Mais ce que je voudrais souligner à la Commission, c'est que dans ce réseau Natura 2000, il y a des points forts, il y a des zones de transition, il y a des points forts. Or là, nous sommes tout particulièrement dans un point fort qui a d'ailleurs depuis de nombreuses années entraîné un certain nombre de protections, puisque en 1988, le site a été classé par le gouvernement français en site classé de Combleu, d'après les lois de 1930 et 1967. Et dans les années 1980, le site a fait l'objet de l'inventaire SNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Et je dois dire que ce premier inventaire donc était fait dans les années fin 80. Il est en train d'être renouvelé. Et aujourd'hui, le site de Combleu, qui a donc Combleu-Chessy, est étendu en aval et en amont pour bien prendre en compte donc les richesses écologiques. Faut-il aussi rappeler donc que le site de Combleu est un site majeur à l'intérieur du classement du patrimoine de l'UNESCO, puisque c'est un des sites qui a servi d'exemple, pour le classement de la Loire au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous embêter avec les richesses naturelles. Mon ami Jean-Marie Salomon vient de citer quelques espèces pour le pont de Mardier, mais nous sommes exactement dans la même problématique, tant en espèces flore que l'importance pour les habitats. Donc je voulais juste souligner l'importance de cette zone comme un point très fort, un point d'ancrage pour de très nombreuses espèces et pour la pérennité des milieux ligériens. Merci.
Alors, donc je vais compléter, parce qu'on a fait...
Proszę panów, tylko tak, panowie sobie sami zaczęli udzielać głosu wzajemnie. Ja nawet w końcu, my nie bardzo wiemy, kto mówi w jakiej sprawie, no bo przynajmniej, jeżeli już panowie tak sobie wymieniają się tymi głosami, nie czekając na to, aż ja udzielę, to przynajmniej, że się panowie przedstawiają. Ja mam tu zapisane pana Solera. Czy pan Soler już mówił, czy będzie mówił? Jak to wygląda? Kto teraz chce zabrać głos? Bo już ostatni z panów, bo to już jest niestety nie możemy tak, że panowie...
Je suis le président de l'association, en fait. Rémi Salé. Donc le monsieur qui vient de parler est monsieur Sénotier,
voilà.
Et le dernier qui parlera est monsieur Masson.
Si vous le permettez, n'ayant qu'une minute et demie à développer. Alors mon problème est simplement de vous démontrer l'intérêt et le sérieux de notre recours. En fait, il faut savoir que l'agglomération d'Orléans, qui donc envisage la construction de ce pont, a décidé d'établir un schéma d'orientation territoriale. Ce schéma est actuellement en confection et il faut savoir, et ça me semble important, des enquêteurs ont été désignés par l'administration française. Ces enquêteurs viennent de déposer leur rapport au début du mois de novembre. Et ces enquêteurs reprennent dans les conclusions de leur rapport les arguments que nous avions développés, à savoir que dans le cadre de l'opération Natura 2000, il n'était absolument pas démontré l'intérêt public
de l'opération. Que d'autre part, au niveau du franchissement, il était fort possible d'utiliser de manière optimum les ponts existants. Et vous verrez, et ce document vous sera naturellement transmis, mais nous n'avons pas pu vous le donner avant, puisqu'il vient tout juste d'être publié. Il faut savoir qu'à la fin des conclusions, les experts disent qu'il est totalement injustifié de construire un pont à l'est d'Orléans. Alors, ben j'en ai terminé. Il est bien certain que ces documents n'émanent pas de notre association. Ils émanent d'enquêteurs de l'administration. Ce que nous craignons, c'est que nous soyons mis devant le fait accompli, parce que, vous verrez également, ce sont les deux pièces que nous vous remettrons, deux interviews du président de l'agglomération qui, prenant connaissance du rapport, dit « Je n'en ai rien à faire, je continue. » Point.
Dziękuję. Pan Soler, półtorej minuty.
Pardon. Je n'ai pas entendu la traduction.
Monsieur Soler, une minute et demie.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie. Je suis membre des deux organisations que vous venez d'entendre, mais je suis également depuis peu le représentant du territoire sur lequel ces organisations travaillent, c'est-à-dire le canton de Chécy, dont les citoyens m'ont élu pour les représenter auprès du Conseil général du Loiret, qui est la collectivité qui prétend construire le premier pont dont nous avons parlé à Mardier. À ce sujet, j'ai questionné le président du Conseil général du Loiret et sa réponse tient en fait en un court extrait que je voudrais vous lire. Donc je le cite. Dans le respect des textes et dans les phases d'étude, le département intégrera toutes les recommandations constructives et utiles dès lors qu'il ne s'agit pas de négations pures et simples, argumentées sur aucun fait précis des projets envisagés, comme c'est le cas de la plupart des recommandations de la commission des pétitions. Je vous avoue que je ne suis pas d'accord avec la vision que mon institution donne de la commission des pétitions. Mais cependant, le Conseil général donc poursuit ses études pour construire le pont que vous avez jugé contraire aux directives communautaires. En plus, il a décidé récemment de recourir à un partenariat public-privé pour la construction de ce pont. Et le partenaire privé est supposé régler tous les problèmes environnementaux, juridiques et techniques à la place du Conseil général. Et nous sommes plusieurs conseillers à nous être opposés en vain à cette décision. J'ai récemment questionné directement Monsieur le ministre de l'écologie du gouvernement français, mais je n'ai pas encore obtenu de réponse. Il me semble que le Conseil général, et ce pourrait être le cas de l'agglomération d'Orléans aussi pour l'autre pont, s'abrite derrière l'absence de réaction du gouvernement français pour ne pas tenir compte de vos recommandations au risque d'enfreindre la directive Habitat. Je souhaite savoir si votre commission parlementaire ou bien si la commission européenne avait reçu des garanties des autorités françaises sur ces projets. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, żeby pan Grimaud zabrał głos odnosząc się do obu tych spraw, a potem dyskusja również nad oboma tymi sprawami. Pan Grimaud.
Merci Monsieur le Président, honorable membre du Parlement, Mesdames, Messieurs. Un premier point à titre liminaire, je peux assurer naturellement que la Commission européenne et la DG Environnement en particulier est tout à fait consciente de l'extraordinaire richesse biologique de la Loire. Simplement, je souligne qu'un petit rappel des dispositions communautaires applicables en l'espèce me semble nécessaire. Il faut bien s'entendre parce quand on parle de projet. Il y a deux directives communautaires applicables en l'espèce. La directive Habitat, qui vise à la protection de la nature, et en l'espèce la Loire, désignée comme SIC, site d'importance communautaire, et comme ZPS, et la directive Études d'incidence environnementale. Qu'est-ce que disent ces directives? La directive Habitat, article 6, paragraphe 3 et 6, paragraphe 4, dit qu'un projet susceptible d'impacter de manière significative un site d'importance communautaire ou une ZPS ne peut être approuvé sans étude Natura 2000 préalable. Et les autorités compétentes ne marquent leur accord que sur la base de l'assurance selon laquelle il n'y aura pas d'effet significatif, d'impact significatif sur la conservation du site. Toutefois, les autorités compétentes peuvent passer outre des conditions, des conclusions négatives d'une étude d'incidence si un projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur et si des mesures compensatoires sont proposées. En bref, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas en présence d'un projet, nous ne sommes pas en présence, la directive Habitat ne s'applique pas. Ce qui est important en droit communautaire, c'est que tout projet, par exemple de pont de franchissement de la Loire, soit précédé d'une étude Natura 2000. En l'espèce, les autorités françaises nous ont informés à plusieurs reprises, et j'ai été informé personnellement par un représentant du ministère il y a 2 jours, qu'effectivement il y a des études Natura 2000 qui sont en cours, il y a des études d'incidence environnementale qui sont en cours, et il y a même, comme vous l'avez, comme vous en avez fait mention, il y a une étude complémentaire visant à analyser les effets cumulatifs des 3 ponts, de Meux-sur-Loire, Sully-sur-Loire et Jargeau, qui sont en cours. Ces études ne seront pas finalisées avant fin 2009. Première chose. Deuxième chose, deuxième directive, la directive étude d'incidence environnementale. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'un projet, comme un projet de pont de franchissement de la Loire, ne peut pas être autorisé sans une étude d'incidence environnementale préalable. Que le public a évidemment le droit d'être consulté, d'être informé, et d'être informé notamment de la décision finale de l'arrêté préfectoral qui sera adopté ou non, qui autorisera ou non un pont ou un ouvrage ou une route, une autoroute à être construite. En conclusion, à l'heure d'aujourd'hui, en droit communautaire, nous ne sommes pas en présence d'un projet autorisé. Nous sommes en présence d'un projet point final. Nous, ce qui nous intéresse, commission, des dispositions communautaires qui sont d'application, c'est de s'assurer que ces projets-là soient précédés d'une étude d'incidence environnementale, d'une étude Natura 2000, que le public soit consulté. Le public sera consulté au cours de l'enquête publique, parce qu'il va y avoir une étude d'incidence environnementale, une étude Natura 2000, un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec une enquête publique, le public ayant l'opportunité d'émettre des avis, et puis une décision finale sera prise ou pas. Donc, aujourd'hui, on parle de projets, on ne parle pas de projets qui sont autorisés. C'est très important vis-à-vis du droit communautaire. Maintenant, concernant le pont à l'est de l'agglomération orléanaise, dont il est fait mention dans le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Premièrement, on parle de projet. Comme vous l'avez tout à fait indiqué, le SCOT, il n'est pas encore approuvé. Il pourrait être approuvé en décembre, le 19 décembre 2008, comme il m'a été indiqué. Deuxièmement, en droit français, le SCOT n'a pas valeur juridique contraignante. Il y a une différence fondamentale à faire en droit français entre la notion de compatibilité et la notion de conformité. En 2 mots, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un SCOT qui prévoit un ouvrage de franchissement de la Loire, ceci n'indique pas, ceci ne présume pas que le dit pont ou que le dit ouvrage de franchissement sera réalisé. Pas du tout. Comme tout autre pont en droit français, il y a une procédure d'autorisation qui doit être enclenchée, il y a un avant-projet sommaire qui doit être réalisé, il y a des études environnementales qui doivent être faites, le public doit être consulté, et finalement, à la fin, il y a une décision qui est prise. Donc, ce n'est pas parce qu'un SCOT fait mention d'un ouvrage que cet ouvrage se réalisera. Le SCOT, il fixe des orientations générales d'aménagement du territoire, des principes fondamentaux d'organisation du territoire, mais il n'a pas valeur prescriptive. Il y a une notion de compatibilité qui s'applique, mais pas de conformité. En somme, pour la Commission, aujourd'hui, il n'y a pas matière à identifier une quelconque violation de droit communautaire, puisqu'il n'y a aucun projet qui a été autorisé. Merci, Monsieur le Président.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zrobimy teraz w ten sposób, ponieważ troszkę mamy mało czasu, więc najpierw chciałem spytać, kto chce zabrać głos. Zgłosili się dotychczas pani Isler Beguin, David Hammerstein-Mintz i pani Auke. Kto jeszcze? Dobrze, proszę Państwa, teraz następnie oddam głos jednemu z przedstawicieli petycjonariuszy na 2 minuty. Po dyskusji. Dobrze, proszę Państwa, teraz następnie oddam głos jednemu z przedstawicieli petycjonariuszy na 2 minuty. Po dyskusji. Proszę, niech panowie wybiorą spośród siebie jednego z panów, który się odniesie do całej tej debaty. Będzie miał 2 minuty, ale tylko jeden. Teraz proponuję, żeby każdy z państwa, z tych 3 osób, mówił przez 2 minuty. Rozumiem, że jest zgoda. 2 minuty na każdego dyskutanta. Bardzo proszę, pani Isler-Begouin, 2 minuty.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, j'avais déjà suivi dans votre commission des pétitions, donc les premières pétitions sur la Loire, et je suis également très stupéfaite par ce que viennent de nous dire les représentants de la commission, parce que pour moi, le représentant de la commission doit être effectivement le gardien du temple de nos directives. Et là, je ne comprends pas très bien, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on parle d'environnement, ce que défendent les pétitionnaires, leur environnement, la biodiversité, c'est ce que nous défendons au Parlement européen et que nous essayons de défendre. Comment voulez-vous défendre quelque chose si vous avez déjà un projet? Là, justement, on essaye d'anticiper. Et la directive, j'étais là lorsqu'on a mis en place la directive Habitat. La directive Habitat, c'est justement pour éviter que la dégradation de l'environnement continue en Europe et pour la stopper. Alors donc, vos arguments, je trouve qu'ils sont vraiment à la limite, parce que ça veut dire que attendons que les projets se finissent et ensuite essayons de voir, vous pouvez pétitionner. Non, écoutez, là on est dans une situation, comment préserver la biodiversité? Eh bien, on préserve la biodiversité en essayant d'appliquer les directives européennes. Et je vous rappellerai aux pétitionnaires que David et Goliath, non, nous ne sommes pas David contre Goliath, parce que je faisais partie des ONG qui, il y a une 20aine d'années, ont défendu la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, et nous avons gagné contre les grands barrages. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différents documents qui sont à notre disposition, il y a quand même quelque chose qui est absolument stupéfiant. Il n'y a aucune réponse de l'État membre, il n'y a aucune réponse de la France. Nous souhaitons savoir ce que dit la France des différents documents qui sont aujourd'hui à notre disposition. Parce que quand même, Monsieur le Président, ça a évolué. Aujourd'hui, la dernière étude qui a été faite par Ingérope, ils expliquent justement, ils donnent de l'eau au moulin aux pétitionnaires, puisqu'ils disent, ils dévoilent toutes les inquiétudes qui avaient été prises par les pétitionnaires. Donc, ils donnent totalement raison aux pétitionnaires. Pour ce qu'il y ait du pont qui est également contesté, l'enquête publique, les enquêteurs publics disent qu'il faut étudier les possibilités qui sont mises en place comme des alternatives qui existent. Les alternatives à ce pont existent. Donc aujourd'hui, on est dans une aberration qui est également relevée par le nouveau Conseil général. Je suppose qu'il a été élu justement par ces populations qui contestent ce projet. Donc aujourd'hui, il y a un faisceau d'arguments qui convergent vers les pétitionnaires. Et je pense, Monsieur le Président, qu'il faut vraiment continuer et demander pourquoi l'État membre n'a pas donné de réponse. Merci, Monsieur le Président.
Dziękuję bardzo. Pan Hammerstein-Mintz, 2 minuty.
Thank you, Mr. Hammerstein-Mintz. 2 minutes, please.
Pani Auken, 2 minuty. Dziękuję.
Madam Auken, 2 minutes.
Okay, Court. Thank you. Just very briefly. I was part of the delegation, and it was difficult time to see exactly what was going to happen, but we haven't had a clear statement from the Commission, an answer from 2006, because we've been told that we'll be kept informed about what is happening and what will be done, because things can go very wrong in this very sensitive area in the Loire Valley, because there are very clear interests at stake, because attempts are being made to keep the building aspect out of the overall impact assessment. So I really do hope that the Commission will give us proper answers, that they won't simply give a general description about what is done in general. And I do agree with what my colleague here has said, because everything might have happened. It might already have been decided and finished before a decision is taken that this goes against the Habitats Directive or Natura 2000. So I do hope that we'll be able to have more responses from the Commission, because we've just had a very general response now that really doesn't tell us anything about this specific case. Thank you.
Ja zaraz udzielę głosu przedstawicielom petycji. Chciałbym tylko...
I'll give the floor to the petitioners in a moment. I will tell you in advance that we are going to leave the petition open and that we should write a very strong letter to the Minister of the Environment, Monsieur Bourla. I'm preempting on your contribution so that you can comment on this position that I would want to take. 2 minutes to the petitioners, please.
M'interpelle également
l'autorité petite.
Monsieur le Président, les deux parlementaires qui sont intervenus ont très bien dit ce que nous aurions eu à dire, c'est-à-dire que les deux projets sont dans un état d'avancement suffisamment important, avec notamment sur l'aglo l'enquête publique et une décision dans les jours qui viennent sur l'engagement de l'opération. Faut-il attendre, comme le suggère M. Grimaud, que les bulldozers entrent en action pour que, à ce moment-là, on rentre dans le juridique? Et je terminerai en contredisant M. Grimaud, qui reprend l'antienne du Conseil général du Loiret en disant « on est en train de faire les études d'incidence ». L'étude d'incidence environnementale a été livrée au Conseil général du Loiret en 2005 et elle conclut que le tracé qui a été voté n'est pas envisageable et que le modèle de pont qui a été retenu n'est pas envisageable. Donc la faute est déjà commise par rapport, ou alors expliquez-moi que l'étude d'incidence est faite pour qu'on la cache et qu'on la détourne et qu'on mente au sujet de ses conclusions. Je pense qu'il faut revenir à la raison. L'an dernier, la Commission a dit qu'il faut revoir les plans concernant le franchissement de la Loire à Mardier et le Conseil général du Loiret serait raisonnable s'il reprenait les choses, mais cette fois dans le bon sens, par exemple en réévaluant les besoins, en les actualisant puisque la donne a changé concernant les circulations et l'automobile, redéfinir honnêtement la réalité des problèmes, resituer tout ça dans les évolutions tendancielles et dans les contraintes nouvelles d'un avenir soutenable, poser des solutions vraiment alternatives, comme la loi l'oblige, et pas simplement comparer quelques variantes, et arbitrer sur un type de solution durable ou sur plusieurs types de solutions complémentaires dans le cadre d'un débat public transparent. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much, and thank you very much for being very specific and adhering to the time limit. We have noted your suggestion, and we are going to write a letter to the Minister of the Environment quoting those circumstances. I fully agree with what has been said, Madame Sabaguen and Madame Elkin. I agree that one can take position on a matter like this. Well, it's always too late if you wait for the final decisions to be made. Intervention must be made before the final project is approved. Madame Beguin, but only 30 seconds, not more than that. We cannot have more debate on that.
Monsieur le Président, parce qu'il y a une question qui m'interpelle également par rapport à une autre directive, Monsieur le Président, la directive partenariat privé. Alors je me demande si on ne pourrait pas faire appel à la DG Marché Intérieur pour savoir si ce que fait actuellement le Conseil Général de proposer ce marché privé en totalité n'entre pas en conflit quelque part au niveau de l'environnement. Donc est-ce qu'on pourrait demander à la DG Marché Intérieur, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Dziękuję Pani bardzo. To zostało odnotowane, co Pani...